Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dumondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bienvenue au Forum de la presse de ce vendredi 21 octobre. Nous avons au menu du jour cette situation sécuritaire toujours préoccupante dans le pays, avec surtout l'enlèvement de l'Américain Jeffrey Hood. Enlevé au Niger, il serait détenu au nord du Mali selon les autorités nigériennes. Nous allons parler du processus de paix avec sept bruits au sein de la CMA par rapport aux autorités intérimaires et de la réunion du CSA. La rentrée officielle des classes à Kidal, nous en parlerons dans cette émission. Et enfin de migration avec le Conseil européen qui se tient à Bruxelles. Nos invités du jour sont Boubacar Payne-Tao de l'Indépendance, Elia Dalmeida du Journal du Mali, elle est en chemin, elle sera très bientôt avec nous, Hassan Kone de NotreNation.com, Yuba Konate du Zénith Balai. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara.
Le Grand Dialogue.
La rentrée des classes à Kidal, reportée dimanche 16 octobre, faute de moyens de transport, selon le responsable de la CMA. Elle a eu lieu lundi, une rentrée qu'on dit symbolique, en présence du gouverneur de la région qui n'y était pas allé depuis un bout de temps. Pour les autorités scolaires de Kidal, toutes les dispositions sont prises pour rendre la rentrée des classes effective. L'enseignant secondaire, quant à lui, est prêt à prévoir une réouverture officielle. Hassan Kone, vous êtes de NotreNation.com, dites-moi, une rentrée symbolique, qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, moi, je pense que déjà, c'est un acquis. Et le fait que depuis un certain nombre d'années, il n'y avait pas d'école dans cette zone-là du pays, et que de façon brusque, la CMA ait décidé qu'il y ait une rentrée scolaire à
Kidal. En fait, est-ce que c'est une décision unilatérale de la CMA? On voit les efforts.
J'ai vraiment l'impression. Non, j'ai l'impression que c'est une décision unilatérale. Hein, parce que c'est la CMA qui a autorisé qu'il y ait une rentrée scolaire. L'État le souhaitait depuis, mais la CMA a autorisé. Mais la preuve, j'ai lu quelque part l'interview d'un responsable de l'éducation qui estime que les conditions ne sont pas réunies pour que des enseignants y aillent.
La CMA dit un peu le contraire, Boubacar Payne-Tao. La CMA essaie quand même tant bien que mal de rassurer du point de vue sécuritaire. On nous dit que tout va bien, que l'école peut rouvrir. Mais j'ai un souci avec le terme symbolique, une rentrée scolaire symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, en fait, c'est une rentrée symbolique. Symbolique en ce sens que
est-ce qu'on va à l'école avec un symbole?
En fait, il n'y a pas d'école sans enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majeure partie des enseignants sont redéployés soit à Bamako ou encore soit à Gao. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que c'est juste une rentrée symbolique parce que sinon, je crois, il y a deux ans de cela, les groupes armés avaient souhaité que la réouverture des classes, mais bon, en son temps, on a demandé quelques responsables du syndicat, ils ont dit que mais tant qu'il y a, parce que la crise, c'est pas une crise scolaire, c'est une crise sécuritaire, cette crise qu'il faut régler d'abord, maintenant, je crois que après cela, le reste va suivre. Sinon, bon, ça c'est juste une rentrée symbolique. Et voilà, donc les anciens n'y ont pas. Donc je ne pense pas que la rentrée c'est pour demain.
Merci. Yuba Konate, quand même, le gouverneur est enfin arrivé à Kidal. Est-ce que c'est un symbole fort?
Merci Ousmane de me permettre de donner mon point de vue sur cette question. Effectivement, je pense que l'arrivée déjà du gouverneur est assez significative pour nous, puisque cette arrivée marque, n'est-ce pas, si besoin était un certain retour de l'administration du Mali. Mais je voudrais peut-être préciser un truc. Quand on dit une rentrée des classes symboliques, c'est pour être poli. En fait, c'est une rentrée des classes de façade. La réalité, c'est ça. Tous les acteurs, tous ceux qui sont sur ces théâtres-là.
Donc, concrètement, sur le terrain, il n'y a pas d'école.
Il n'y a pas d'école. Tout le monde le sait. Et la CMA le sait parce que c'est elle qui avait de tout le temps bloqué la rentrée des classes. Puisque le gouvernement, en son temps, on se souvient très bien, avait décidé il y a 5-6 mois de cela, avec tout un armada qui avait été déployé, des moyens financiers assez conséquents avaient été déployés pour pouvoir faire cette rentrée. Malheureusement, la CMA avait instrumentaliser les populations de Kidal et qui avaient manifesté brièvement et marqué leur hostilité à toute présence de l'État à l'époque. Donc on avait compris que c'était une instrumentalisation. Donc on parle de rentrée symbolique parce que c'est en fait une rentrée de façade. Mais toujours est-il que c'est une bonne chose parce qu'au moins le gouverneur a pu être à Kidal.
Célia Dalmeida, vous êtes du journal du Mali.com, du journal du Mali, excusez-moi. Dites-moi, est-ce que Hassan Kone l'a mentionné tout à l'heure, est-ce que les conditions sécuritaires aujourd'hui, même pour les enfants qui vont à l'école, sont réunies à Kidal pour pouvoir rouvrir l'école?
Bon, on peut peut-être vouloir couper la poire en deux. En disant que justement, si les groupes armés qui tiennent Kidal souhaitent que l'école rouvre à Kidal, ils vont mettre en place le dispositif sécuritaire qu'il faut pour permettre aux enfants d'aller en classe. Maintenant, il y a deux côtés de l'insécurité. Oui, bon, les enseignants, il faudra les motiver, vraiment les motiver. Je pense que l'effort qui est fait n'est pas encore suffisant pour qu'ils soient convaincus de l'intérêt pour eux, parce que c'est ça aussi quelque part, d'aller au Nord. Nos militaires veulent pas aller au Nord, c'est pas les enseignants qui vont y aller, donc c'est plus complexe. Je pense qu'il va falloir réfléchir à un dispositif vraiment motivateur pour que les enseignants y aillent. On a dans les rangs des groupes armés des gens qui peuvent enseigner, peut-être pourquoi pas réfléchir à cette option là
de les faire enseigner. Grissa est enseignant à la retraite
par exemple, Jerry Maïga est un enseignant. Voilà, donc je pense que peut-être réfléchir à comment utiliser ces forces-là, au lieu de les cantonner dans des camps, les transformer en enseignants, pour qu'au moins ils soient utiles à ça. Et je voulais parler de l'aspect sécuritaire en disant il y a la menace extérieure, mais il y a la menace sournoise des engins explosifs improvisés qui sont un peu partout dans cette ville-là, parce que justement la CMA, craignant la confrontation avec la plateforme, a un peu travaillé le terrain. Donc il y a cette inquiétude-là peut-être à avoir par rapport justement à la sécurité des enfants. Et comme Yuba l'a dit, hein, je pense que c'est plus politique que scolaire, cette rentrée. Le symbole pour l'État malien, mais le symbole aussi pour la CMA, de dire justement par rapport à cette confrontation latente qu'il y a avec la plateforme, de dire, bah, vous voyez, nous on veut la paix, nous on est du côté du gouvernement, la preuve, on ouvre les écoles. Maintenant, est-ce que l'action sémantique, hein, l'action diplomatique et politique va s'accompagner de la réalisation sur le terrain? Je suis plutôt sceptique.
Hassan Kone souhaitait réagir.
Oui, moi je souhaitais réagir. C'est-à-dire, moi je pense que la vraie question, c'est se demander maintenant pourquoi c'est maintenant la CMA décide qu'il faut une rentrée scolaire à Kidal.
Mais c'est politique.
Est-ce que les conditions ont évolué? Donc par là, quand on analyse cette question, on voit que la CMA est encore dans un mauvais jeu. Parce qu'à la veille de cette ouverture-là, il y a eu encore des manifestations qui ont été organisées à Kidal contre l'État malien. Donc la CMA ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir que l'État ouvre l'école, parce qu'ils ont fait un communiqué qui a été diffusé. Ils disent que par leur volonté d'ouvrir l'école, ça affiche leur souhait que les services sociaux de base viennent rapidement dans la zone. Mais vous ne pouvez pas vouloir que l'État... Parce que le fait de faire venir les services sociaux de base, c'est des milliards de contribuables maliens qui doivent y aller.
Justement, est-ce que,
et en
est-ce
même temps,
que,
vous ne pouvez pas refuser que l'État malien y soit.
Allez-y.
Je vais demander à Hassan, justement, est-ce qu'on ne peut pas faire la lecture en se disant, mais justement, ça c'est la preuve palpable qu'il continue d'avoir des manifestations, alors que les dirigeants de la CMA disent, voilà, la preuve de notre bonne volonté. Est-ce que ce n'est pas la preuve vraiment palpable que la CMA et sa base ne parlent pas le même langage?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils parlent le même langage. Ils sont dans un jeu orchestré.
J'ai plutôt cette question-là.
Ils veulent donner l'impression que la population à la base est contre le retour de l'État et que eux aujourd'hui ils sont pour le retour de l'État. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est un jeu.
D'accord.
C'est un jeu.
Boubacar Païda, moi j'ai une question pour vous. Alors, si aujourd'hui la CMA nous dit que les garanties sécuritaires sont là pour pouvoir aller à l'école, est-ce que ça ne veut simplement pas dire que depuis un certain temps, elle avait les moyens d'offrir ces garanties sécuritaires quand même? Si c'est aujourd'hui, pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'elle peut nous donner ces garanties sécuritaires? Qu'est-ce qui a changé en temps sur le terrain?
Non, c'est pas parce que aujourd'hui, bon, rien n'a changé, parce que
c'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui on a cette garantie sécuritaire de la CMA?
C'est-à-dire que la CMA est dans un schéma, c'est-à-dire qu'elle a un agenda propre à elle, c'est-à-dire que elle fait les choses quand elle veut et quand elle souhaite. C'est ça. Sinon, moi, je pense que sur le terrain, rien n'a changé. C'est-à-dire que sur le terrain, pratiquement rien n'a changé.
Il va rapidement le dernier mot sur l'école.
Le dernier mot sur ce sujet. D'abord, je voudrais signaler ici que les syndicats enseignants ont très officiellement dit tout leur scepticisme à participer à envoyer leurs, comment dirais-je, militants dans, cette zone-là. Très officiellement, ils ont dit. Ensuite, il y a une autre lecture que j'ai fait contrairement
à ça. Il y a eu un communiqué de la CMA pour assurer.
Voilà. Justement. Non. Ça dit que la CMA est dans la propagande. Tout le monde sait que le truc sécuritaire dans cette zone-là n'est vraiment pas du truc de. Ça dit que la CMA aujourd'hui fait de la propagande. Uh-huh. Dire qu'ils contrôlent absolument rien. Mais les manifestations de populations qui ont lieu à Kidal aussi, il faut le mettre au compte. Des jeux à l'intérieur de la CMA elle-même, parce qu'il y a des gens qui se... Vous avez vu avec la décision officielle de nomination des autorités intérimaires, tout le boucan qui est fait, parce qu'il y a des gens, il y a des jeux au sein de la CMA elle-même, que la CMA elle-même ne contrôle pas. Il y a des gens qui estiment qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, récompensés comme il faut, qui n'ont pas eu les postes qu'il faut, tout ça. Donc, il y a tout ce jeu-là qui fait que ces gens se livrent souvent à de la manipulation.
Merci, Yuba Konaté. Hassan, on va devoir aller vers le deuxième sujet, c'est cette 12e réunion du comité de suivi de l'accord qui a eu lieu à Bamako. Les deux points principaux inscrits à l'ordre du jour, la mise en place des autorités intérimaires dans les 5 régions du Nord, ce qui a été adopté la semaine dernière par un décret du gouvernement portant nomination justement de ces autorités intérimaires, justement ce décret qui suscite quand même, on va dire, d'une part, du côté de la CMA d'ailleurs, de cette entité, la CPA, qui n'est pas contente justement de nominations faites au sein de la CMA. Célia d'Almeida.
Heureusement, je ne suis pas de la CPA, donc ça va être difficile de réagir sur leur point de vue. Mais je pense que, comme Yuba le disait tout à l'heure, l'heure est venue de partager le gâteau. Et le partage du gâteau, apparemment, ne se fait pas de manière équitable. Et quand ça ne se fait pas de manière équitable, les uns et les autres grognent. Je pense que, malheureusement, tous les après-conflits sont comme ça. Toutes les parties qui se battent pour avoir droit à tel ou tel privilège, quand ils se mettent ensemble...
Ils se plaignent quand même de n'avoir pas du tout été consultés et pris en compte, justement, dans la composition des gens nommant les autorités intérimaires.
Oui, peut-être.
C'est de bonne guerre.
Peut-être qu'ils ne se sont pas suffisamment positionnés. Je ne sais pas comment ils fonctionnent en interne. Je n'ai pas une connaissance approfondie de cela. Mais je pense que... et puis, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il se passe quelque chose au niveau de ces groupes armés. Leurs dirigeants n'ont plus vraiment d'assises chez eux. Ce sont des gens qui sont à Bamako depuis 6, 7, 8, 1 an, qui, pour la plupart du temps, ne sont pas retournés à Kidal. Donc, ils n'ont... Peut-être qu'ils n'ont plus cette perception de la réalité du terrain. Pendant ce temps, il y a des gens qui continuent de se battre là-bas, qui continuent de... parce qu'ils ont des idéaux, parce qu'ils ont envie de voir les choses se passer d'une certaine manière. Et donc, quand ceux qui sont à Bamako, qui négocient, obtiennent des choses, ceux qui sont sur le terrain, c'est normal qu'ils se sentent floués. Voilà.
Alors, Hassan Kone, de notrenation.com, dites-moi, est-ce que Almou Ag Mohamed, un des porte-parole de la CMA, salue cette décision qu'il qualifie justement d'une véritable avancée vers la paix? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, avec cette menace qui plane au sein même de la CMA, ça ne va pas, on se plaint? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une avancée vers la paix?
Bon. Et vous savez, le conflit du nord du Mali ne sont pas dans... C'est pas le premier conflit. Je pense que la résurgence chaque fois de ce conflit et tire sa source dans la manière de gérer ce conflit.
C'est clair.
Déjà, avec la mise en place de ces autorités intérimaires, il y a mal donné.
C'est-à-dire?
Si déjà au sein de la CMA, il y a des contestations, ça veut dire que si on va sur cette base, il faut être convaincu qu'un autre groupe va prendre des armes pour revendiquer ce qu'ils n'ont pas eu.
Mais est-ce que ce n'est pas leur tasse interne? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû discuter entre eux pour justement convenir de quelque chose?
Ce n'est pas leur tasse interne. L'État doit s'arranger pour qu'il y ait la justice et l'équité dans tout ce que l'État fait dans cette partie du nord du Mali. L'État doit éviter de toujours traiter avec des groupuscules ou des petits camps. Malheureusement, aujourd'hui, je me pose deux questions. Soit il y a un véritable problème dans la CMA pour que la CMA ne puisse pas proposer des listes consensuelles, soit l'État a profité d'une faille de la CMA pour créer des problèmes dans la CMA en en acceptant cette liste, tout en sachant que ça va créer un problème dans la CEMA.
Merci. Alors, quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Restez connectés avec nous si vous venez de nous rejoindre. Vous suivez le forum de la presse du studio Tamani avec nos collègues, les journalistes. On parle ici de cette 12e session, justement, du comité de suivi de l'accord. Boubacar Paintao, alors, est-ce que cette discorde, justement, au sein de la CMA n'est pas de nature à ralentir les choses?
Bon, évidemment, bon, quand vous dites...
Parce qu'on souhaite aller quand même rapidement, session, on a tant parlé de ces autorités
session de,
aujourd'hui ça ne va pas.
Comité de suivi bon, de l'accord, moi je pense que 12e session, je pense que c'est seulement des rencontres de plus. Maintenant...
Il y a quand même eu des avancées, il y a quand même eu ce décret portant nomination des membres des autorités intérimaires.
Mais nomination
de la plateforme d'assemblée.
Des membres, c'est-à-dire que des autorités intérimaires qui ne font pas l'unanimité. C'est cette question.
Qui ne font pas l'unanimité au sein de la CMA. Oui, la plateforme, non, en revanche, n'a rien à dire, elle est d'accord.
Parce que le problème, c'est que même la jeunesse de Gao, grand frère, maintenant, même la jeunesse de Gao conteste, c'est-à-dire que la mise en place, c'est-à-dire que de ces autorités intérimaires. Maintenant, au sein de la CMA,
la jeunesse de Gao a contesté à un moment donné. Mais la jeunesse de Gao a fini par adhérer à ce concept d'autorité intérimaire.
Oui, non, mais non.
J'ai lu récemment, suite à la décision du gouvernement, pour contester.
Bon, okay. Maintenant, moi, je me pose la
question. Pour contester juste les autorités
intérimaires. Les nominations qui ont été faites.
Mais moi, je me pose la question. C'est-à-dire que, est-ce que ça arrange aujourd'hui le gouvernement de jouer sur la corde de la division? Parce que c'est cette question que je me pose. Maintenant, si les listes proposées ne font pas unanimité au sein de la CEMA, moi je pense qu'il y a un problème. Parce que la CEMA, c'est l'une des composantes très importantes dans la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, toutes les décisions prises dans la mise en œuvre de l'accord, moi je pense que ça doit faire l'unanimité au sein de toutes les composantes. Voilà. Mais si à partir de la liste, la CEMA n'est pas d'accord, donc il y a des dissensions au sein de la CEMA, donc on doit s'inquiéter.
Célia, je vous donne la parole dans une seconde, le temps de faire réagir Yuba Konaté. Yuba Konaté, quand on regarde quand même, au sein de la plateforme, il semble que tout va bien à ce niveau-là. La plateforme a eu une liste très ouverte, très consensuelle. Elle dit avoir tenu compte même de ces nouveaux groupes armés qui sont nés il n'y a pas longtemps.
Oui, moi je pense que c'est trop demandé au gouvernement quoi, de s'immiscer dans l'élaboration ou les propositions de la CMA. C'est trop demandé au gouvernement. Et d'ailleurs, ça ne marchera même pas si le gouvernement essaie aujourd'hui de s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans l'élaboration de ces listes-là. Très vite, vous allez voir les contestations. Les gens vont violemment réagir, ils ne vont pas accepter. Ça, c'est des cuisines internes. Et on le comprend pourquoi. Parce que il s'agit ici, c'est l'objet même de la rébellion, il s'agit de partage. Dès lors qu'il y a partage, les uns et les autres, les gens sont dans cette dynamique-là parce que tous ceux qui sont aujourd'hui, parce que la vraie raison de l'engagement de tous ces gens-là pour cette rébellion, tout le monde le sait, c'est pour ces questions de poste-là. Donc, nous sommes en train d'arriver maintenant à la finale de la fête.
Donc, il faut que les gens. Les revendications.
Non, les revendications politiques et autres, oui, servent de faire valoir, mais la réalité, c'est vraiment pour ces choses-là. Et vous allez voir. Et la question qui se pose aussi, en sourdine par rapport à aux autorités intermédiaires, là, c'est aussi ça. C'est-à-dire que dans toutes les rébellions que nous avons vécues dans notre pays, que ce soit les groupes qui se disent pro-gouvernement, que ce soit les groupes qui combattent le gouvernement, à chaque fois, quand il s'agit, nous arrivons à la fin des hostilités et qu'il s'agit de partager les postes, c'est tout le monde qui est bénéficiaire. Et c'est ce qui pose un autre problème.
D'accord.
Parce que dans cette logique des rébellions au Mali, et par rapport à la récurrence de ces questions-là, il va falloir qu'à un moment donné, que les gens réfléchissent à cette dynamique-là aussi, que ceux qui sont pour, ceux qui disent qu'ils sont pour le gouvernement et ceux qui sont contre le gouvernement, au moment de partager, on ne sent nullement la différence. Mm-hmm. C'est une question.
D'accord. Célia d'Almeida, dites-moi, quel est le poids réel aujourd'hui de la CPA quand on voit qu'il y avait déjà cette dissension avant, parce que la CPA avait signé l'accord, on se souvient, le 15 et le reste de la CMA le 22. Et il y a eu ensuite la CPA qui était exclue et qui ensuite a réintégré et a choisi d'aller du côté de la CMA. Quel est aujourd'hui son poids réel? Est-ce qu'il n'y avait pas une dissension consommée d'antan déjà?
Oui, je pense qu'il y a une dissension consommée, mais il y a convergence d'intérêts qui a fait qu'à un moment donné, justement, ils se sont remis ensemble pour aller dans le sens de la mise en œuvre de l'accord, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure et comme tout le monde l'a dit autour de ce plateau, ces personnalités, j'allais dire ces individus, ces personnalités ont des agendas, sont là pour quelque chose, visent quelque chose au bout de leur parcours, au bout de leur combat.
Vous n'êtes pas convaincu par le bien fondé de certaines de ces revendications qui
parlent je ne me permettrai pas de les juger, mais je pense que jusqu'à présent, le jeu est clair. Hassan Kone l'a dit, c'est des rébellions récurrentes. Nous sommes dans le même schéma à chaque fois où on se bat, on a des poses de responsabilité, des gros poses de responsabilité, on se tait, on en profite pendant 20 ans. Pendant ce temps, les enfants viennent, on les forme, on les arme et puis ils arrivent sur le terrain. C'est ce à quoi on assiste. Moi, ce que je voulais relever, c'est l'aspect éclatement tribal de cette rébellion de la CMA. Et aujourd'hui, on se retrouve avec chaque tribu et son groupe armé. Et comment on va arriver...
On a vu la création du CJA.
Comment on va arriver à une mise en œuvre de l'accord qui a été signé par un nombre X de protagonistes et dans le X de protagonistes, le Y se retrouve avec plusieurs inconnus. Ça va être très compliqué pour le gouvernement, pour eux-mêmes entre eux de s'entendre, on le voit avec cette question d'autorité intérimaire. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que ça met en danger l'accord de paix? Moi, je dis oui, parce que je me pose la question de comment est-ce qu'on va continuer à discuter avec un interlocuteur qui se démultiplie à chaque fois et qui arrive à chaque fois avec des revendications, des doléances différentes. Peut-être faut-il qu'on repense cet accord. On l'avait dit dès le départ, l'accord n'est pas parfait. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va l'adapter. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu.
La conférence d'entente nationale sera aussi faite pour ça.
Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui sera le contenu de cette fameuse conférence. On attend de la voir démarrer. Mais en tout cas, je pense qu'il est important qu'on repose les choses cartes sur table. Parce qu'entre le moment où l'accord a été signé aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, de nouvelles donnes, qu'il faut qu'on repose tout sur la table. Et que c'est très important, à mon entendement, qu'on nous laisse discuter entre nous, Maliens. Parce que je pense que l'un des problèmes aussi de cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mêlent de notre affaire. Et ça ne nous aide pas forcément pour nous entendre vraiment. Je pense que cette conférence-là, le challenge, sera de nous retrouver entre nous, Maliens, de nous enfermer dans une salle, s'ils veulent, ils n'ont qu'à assurer notre sécurité, mais nous enfermer entre nous dans une salle, on se tape et puis après, on se parle. Et je pense que c'est au jour d'aujourd'hui, là où on en est, c'est la solution pour qu'on puisse avancer.
Donc, il y a urgence d'aller à la conférence nationale. D'accord. L'Américain Geoffrey Hoodke, Jeffrey Hoodke, j'ai un peu de mal avec son nom, enlevé le vendredi dernier, 14 octobre, dans l'ouest du Niger, serait actuellement dans le nord du Mali, à Gao plus précisément, selon le ministre nigérien de l'Intérieur. Mohamed Bazoum indique que le Moujao serait l'auteur de cet enlèvement. Selon les autorités nigériennes, les ravisseurs sont passés par le sud du poste militaire de Talia au Niger, puis Menaka et Andera Boukan au Mali, plus précisément à Intamat. Alors, Hassan Kone, Jeffrey Wood qui serait au Mali. Est-ce que ça nous démontre encore la force de frappe, la puissance encore de ces islamistes-là qui arrivent à enlever un Américain dans un pays X, un pays limitrophe au Niger, et l'amène au Mali?
Moi, je pense personnellement que ça nous rappelle des mauvais souvenirs de cette grande période des grands enlèvements. Mais ça nous amène à comprendre que la situation est toujours volatile, hein, en réalité. Hein, et personne n'est à l'abri. On peut même faire des enlèvements à Bamako aujourd'hui. Dans tous les pays du Sahel aujourd'hui, il y a des enlèvements possibles d'occidentaux,
donc,
c'est possible.
Donc justement les islamistes démontrent encore une fois de plus qu'ils ont encore
Je dirais pas forcément que ce sont des islamistes, hein. Moi je dirais pas forcément que qui est islamiste, qui n'est pas islamiste dans cette histoire au nord. Le Niger parle du Moujao. Le Moujao, on n'entend plus parler du Moujao. Ceux qui sont dans cette partie, on sait aujourd'hui qui sont ceux qui sont là-bas. Donc au lieu d'aller accuser islamiste, qu'on accuse directement ceux qui ne doivent pas avoir les armes en main et qui ont des armes dans le nord du Mali. Ça lui pose problème. Et je vous dis un truc, il y a un véritable problème. C'est-à-dire la manière de régler ce problème-là, on ne va pas sortir. Parce que même tout cela, la mise en place des autorités intermédiaires, tu le disais, la CPA. Mais la CPA pose le terme en thème d'ethnie et de communauté. Ils estiment que la liste qui a été présentée par la CEMA est seulement constituée d'Ifugas. Mais posons les problèmes concrètement. Alors, comment on va continuer?
Justement, comment poser le problème?
Ils posent le problème en termes d'ethnie et de communauté. Ils estiment que la liste qui a été présentée par leur regroupement politique ou leur regroupement armé ne concerne que des gens qui appartiennent à une seule ethnie, les Ifugas.
Mais est-ce que ce n'est pas une partie de leur réalité, justement?
Ce n'est pas une partie de leur réalité. On ne peut pas continuer. C'est-à-dire, quand on veut fonctionner, un pays veut fonctionner sur les bases de la démocratie, il faut qu'on aille sur les bases de la démocratie. Qu'on ne continue pas à fonctionner esclaves. Nous sommes des citoyens maliens, on n'est pas des citoyens maliens. Il faut que l'État s'assume à ce niveau-là. C'est la cause. En réalité, je voulais venir sur ce truc, mais on va revenir là-dessus.
D'accord.
Ce problème, ils vont continuer à enlever des gens. Oui. Parce que dans le nord du Mali, ces groupes armés sont de mèche avec les petits réseaux islamistes. La preuve, ceux qui ont été enlevés au Niger n'ont pas été enlevés par le Mudjahou, hein. On pense que c'est des rebelles du Nord Mali qui les ont enlevés et qui les ont ensuite donnés au Mudjahou.
D'accord.
Voilà la vérité.
D'accord. Alors, Boubacar Paintao de l'Indépendant, dans le même élan, la prison de Koutoukale au nord-est de Niamey aurait été attaquée dans la nuit de lundi à mardi par des islamistes. Encore, c'est une des prisons de haute sécurité où on détient d'ailleurs certains complices ou certains islamistes au Niger.
Bon, moi, la lecture que moi je fais de tout cela, c'est que ces événements prouvent à suffisance que le conflit n'est pas que malien, c'est-à-dire qu'il est un peu sous-régional. C'est-à-dire que ça demande l'implication de tous les États sur cette partie.
Mohamed Bassoum l'a d'ailleurs souligné en disant qu'à un moment donné,
il faut reconnaître que malgré qu'on a tout le temps, critiqué nos autorités, on a tout le temps critiqué le gouvernement malien, il faut reconnaître qu'à un moment donné, c'est-à-dire que nos voisins, ils sont mis dans la posture, c'est au Mali, et puis voilà. Maintenant, c'est-à-dire que ces événements prouvent à suffisance qu'il faut conjuguer nos efforts pour pouvoir vraiment surmonter cette situation. Sinon, comment on peut enlever quelqu'un au Niger, et puis au bout de quelques jours, on dit que la personne est détenue au Mali. Ça veut dire que cette zone-là, ça prouve la porosité de cette zone-là. C'est-à-dire que personne ne maîtrise. C'est-à-dire que cette partie,
donc,
que
ce soit vous parlez donc de la bande frontalière.
Oui, personne ne maîtrise, que ce soit le Niger, la Mauritanie, le Mali, personne ne maîtrise cette zone-là. Cette zone-là, c'est vraiment.
Mais on a quand même une très forte concentration d'hommes, Barkans, la MINUSMA, les FAMAL, plateforme CMA qui évoluent tous dans le même secteur.
C'est-à-dire qu'on a tout le temps dit, moi j'ai dit, voilà, ce que moi je déplore, c'est qu'aucun partenaire du Mali, ne peut dire, voilà la position du gouvernement malien. Et c'est malheureux. Maintenant, MINUSMA, Barkhane, chacun est là avec son agenda. Ça aussi, c'est clair. Hein? Voilà. Donc, Barkhane est là pour traquer les terroristes, pas traquer les séparatistes. Voilà. Donc, oui, c'est ça, quoi.
Elle est où aujourd'hui, la frontière entre terroristes et séparatistes? Oui, quand on voit
Mohamed, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire entre les groupes armés, aujourd'hui, c'est un système de vase communicant, je l'ai dit. C'est-à-dire qu'ils sont terroristes selon des circonstances, et selon d'autres circonstances, ils sont autre chose.
Alors, voilà. Youba Konaté, c'est là, je vous donne la parole dans un peu de temps. Youba Konaté du Zénith Balé, on a vu justement la mort d'un responsable de la CMA le dimanche 16 octobre dans la région de Tombouctou. Dans le même élan, on a vu cette infirmière Adiata Diallo qui a été assassinée dans l'attaque d'un véhicule médical entre Ombori et Gossi. Est-ce que finalement, vous pensez que si on, comme certains l'ont évoqué, négocie avec quelqu'un comme Yad Agali, ça pourrait changer la donne sécuritaire?
Bon, je ne sais pas trop, hein, mais ce que moi je retiens dans tout ça, c'est-à-dire que les enlèvements, les attentats qui continuent, les morts d'hommes, c'est que fondamentalement depuis 5 ans, la situation n'a véritablement pas changé. C'est ce qu'on peut noter. Parce que après tout ce que nous avons comme présence de Barkhane, tout ce que nous avons comme force militaire dans la zone. Depuis 4-5 ans, fondamentalement, la situation n'a pas changé. C'est toujours une situation de terreur et tout le monde le comprend maintenant. Donc, à partir de là, est-ce que si nous faisons, nous changeons d'option pour, comment dirais-je,
il faut signaler
dialoguer avec...
Même hier, il y a eu cette attaque, deux obus sur la MINUSMA à Ansongo, qui
voilà.
Avait deux blessés.
Voilà. Donc, est-ce que si on change de truc et qu'on négocie avec un homme comme Yagagali, ça va changer des choses? Moi, je ne sais pas. Parce que fondamentalement... Les forces en présence ici aujourd'hui, personne ne peut dire clairement quel est l'état des forces en présence. Donc, je ne pense pas que négocier avec...
En tout cas, ce sont des forces qui sont...
Voilà, va fondamentalement changer quelque chose. Peut-être aussi à ce niveau, il y a une autre lecture qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maîtres à penser, ceux qui supportent toute la communauté internationale, ne va jamais permettre qu'on négocie avec un homme comme Yann. C'est très clair. Donc, si on s'avérerait à aller dans cette direction-là, peut-être qu'on puisse passer de l'aide ou de l'accompagnement de cette communauté internationale aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Et entre-temps, je rappelle que.
Je me permets de vous couper, c'est la pause. On prend quelques secondes de pause et vous reprendrez la parole.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani. Sans plus tarder, Yuba était sur un élan avant parole à Célia.
Par rapport aux inquiétudes des uns et des autres, par rapport à la situation des autorités intérimaires et tout le désordre qui est créé au niveau de la CEMA, moi je pense qu'il y a un garant quand même pour toute cette affaire-là. C'est l'aménagement qui est le garant de toute cette affaire-là. Donc, la cuisine interne, les problèmes internes qui est au niveau de la CEMA aujourd'hui, si... ça continue à évoluer. Je pense que l'aménagement et la communauté internationale sont garants pour ça. Et les sanctions et autres qui ont tout le temps été bravées, je pense qu'il va falloir à un moment donné commencer à les mettre en application. Parce qu'on ne peut pas continuer à gérer les humeurs des uns et des autres sur ces questions-là. Il va falloir à un moment donné qu'on avance. Même si le choix fondamental qui est l'accord lui-même n'est pas totalement de notre goût, je pense que c'est le choix que nous avons fait. Et dans cette démarche-là, il faut aller avec ce que nous avons signé pour que les choses avancent.
Puisse avancer. Célia Dalmeida souhaitait réagir, mais dites-moi, quand on a vu quand même quelqu'un comme Feu Cheikh Agaoussa qui a pu être sur la table de négociation puisqu'il faisait partie du ACIA, mais qu'on a vu aussi aux côtés de Yad, on a dit qu'il était numéro 2 d'ailleurs de Yad, on a vu dans les vidéos de propagande islamiste de Yad Agali, si on accepte de négocier avec lui, est-ce que toute la communauté internationale l'a accepté? Est-ce qu'on ne peut pas justement négocier avec quelqu'un comme Yad qui a une capacité de nuisance intrinsèque sur le terrain? Est-ce que ça ne va pas changer quelque chose?
Ma réponse est en deux volets. Le premier volet, Agaoussa à un moment a dit « j'abandonne la mouvance islamiste, je me revendique politique et je discute politique ouais. ». Jusqu'à preuve du contraire, l'autre monsieur ne l'a pas fait. Et deuxièmement, vous parlez de sa capacité de nuisance. Quelle est-elle? Aujourd'hui, dès qu'il y a quelqu'un qui tire sur quelqu'un, on dit les djihadistes et on dit Agagali. Je ne vois pas de revendication directe, à part un ou deux incidents spécifiques. Donc, vous parlez de l'enlèvement...
Qui sont un ou deux incidents de trop?
Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on ne prête pas un poids qui est trop grand? Est-ce que ce n'est pas l'épouvantail que l'on agite au-dessus de nos têtes aussi, quelque part, dans ce processus, pour qu'on évite de s'adresser aux vrais gens qui sont les vrais problèmes? Parce que si la mise en œuvre de l'accord bloque aujourd'hui, ce n'est pas Yad Agali. Parce qu'il n'est pas partie prenante de l'accord, Yad Agali. Il fait des attentats, d'accord, ça mélange, ça perturbe, ça fait la terreur.
Est-ce que justement toute cette situation sécuritaire débordante dans une partie du pays n'est pas de nature à rendre très difficile l'application de l'accord sur le terrain?
Oui, c'est possible. Maintenant, encore une fois, ma question revient. Est-ce que cette situation-là est à mettre au compte d'Yad Agali? C'est là, moi je doute de cela. Je pense qu'on l'a toujours dit, ce qui se passe là-bas, en dehors de la question politico-ethnico-machin,
c'est des conflits d'intérêts, les routes de la drogue, les routes des trafics humains, etc. Et ces gens se battent aujourd'hui pour ça. Pourquoi est-ce que les enlèvements reprennent? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ben, la drogue n'arrive plus à passer par là où elle passait avant. C'est devenu plus compliqué. Donc il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement pour avoir de l'argent. Pourquoi Gao particulièrement? On dit que le monsieur, il est à Gao aujourd'hui. Tout le monde connaît le quartier cocaïne de Gao. Alors, si aujourd'hui, les jeunes du quartier cocaïne de Gao n'arrivent plus à mener la cocaïne à avoir leurs 3 millions par semaine, ils vont chercher d'autres sources de revenus. Donc, je pense qu'il faut repenser toute cette histoire-là et proposer de vraies alternatives aux gens. Régler la question ethnique, comme Hassan l'a dit, qui est vraiment le fond de ce problème. Arrêter de l'éluder, parce que tant qu'on va l'éluder, dans 20 ans, on va se retrouver dans la même situation. Régler cette question ethnique-là, quitte à ce qu'on fasse une loi comme on a fait pour la loi genre, en disant, ben, si on prend dans une zone où il y a 4 ethnies, qu'il y a 25% de chaque ethnie. Comme ça, la question est réglée. Je pense qu'il faut qu'on repense la chose pour qu'on pose des bases saines pour repartir, rebâtir l'état du Mali que nous tous nous voulons, un, indivisible et prospère. Les bases sur lesquelles nous sommes ne peuvent pas nous permettre d'y arriver de manière sereine.
Merci Célia d'Almeida. On va maintenant parler de migration avec le Conseil européen qui se réunit actuellement à Bruxelles pour étudier les moyens de limiter le flux des migrants qui fuient l'Afrique pour rejoindre l'Europe. Les membres du Conseil envisagent ainsi de conditionner les aides européennes en fonction des résultats qu'obtiendront les pays pour retenir sur le continent ceux qui cherchent un avenir meilleur en franchissant la Méditerranée. Alors, cette nouvelle approche proposée à l'origine par l'Italie, où débarquent la plupart des réfugiés en provenance d'Afrique, vise au départ 5 pays. On parle du Nigeria, du Niger, du Sénégal, de l'Éthiopie et du Mali. Hassan Kone, est-ce que ça vous paraît réalisable, justement, de conditionner les aides à travers le flux des candidats au départ, sachant que nos pays ne contrôlent pas forcément, justement, ce flux?
Non, mais et prendre cette décision, c'est comme si c'est nos États qui organise le départ. Vous allez sanctionner des États qui n'ont aucune maîtrise de ce phénomène et de ce mouvement. Et quand on analyse ce phénomène et ce mouvement à l'origine, c'est leurs différentes politiques qui ont été mal appliquées dans nos États depuis un certain nombre d'années. C'est les conséquences. Écoutez, vous n'allez pas appauvrir une partie du monde et vivre dans l'aisance. Ceux qui sont pauvres vont aller vouloir vivre chez vous. Et puis aujourd'hui, l'Europe est mal placée pour se mettre dans ce dispositif pour la simple raison que, à cause de la guerre en Syrie, l'Europe est en train d'ouvrir les vannes pour les Syriens.
Mais justement, moi, j'appelle les réfugiés. Les réfugiés, les réfugiés.
Tomber, c'est la même chose.
Même ceux qui fuient la guerre en Afrique, on ne les appelle pas les réfugiés, on les appelle les migrants illégaux.
Je te dis un truc, ils le font exprès. Et excusez-moi le terme, hein, je pense que il y a même un, je vais le lâcher, hein, il y a même du racisme dans le traitement de la migration. C'est parce que les Syriens ont peut-être la peau blanche, ils sont pas trop visibles dans la population occidentale qu'on les accepte.
Est-ce que ce n'est pas l'opinion publique européenne justement qui n'est pas forcément bien informée?
L'opinion publique européenne est contre l'arrivée des Syriens. Il pose pas de problème. Personne n'a vu une manifestation publique en Europe contre l'arrivée des Noirs. Personne ne l'a vu. Il y a pas eu de manifestation publique.
Quand il faut voir.
En même temps, ils veulent fermer les frontières du Sud par rapport à l'Afrique, mais les ouvrir de l'autre côté pour les Syriens. Moi, je croyais qu'en Europe, ils n'avaient aucune capacité de réception. Quand on nous disait que l'immigration africaine nous envahit, j'ai cru qu'ils n'avaient pas de capacité de réception. Mais avec la crise syrienne, j'ai vu que l'Europe peut recevoir des milliers d'individus. Donc, ils vont créer des faux problèmes entre les États africains et l'Europe. Et puis, en prenant cette décision, c'est comme si c'était les États africains qui décidaient d'organiser l'immigration clandestine. Soyons sérieux.
Merci Hassan Kone. Boubacar Pointeau, dites-moi, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui l'impression qu'il y a toute une manipulation au niveau de l'opinion publique européenne quand ils ont le sentiment d'être envahis par des étrangers, par des Africains principalement, alors que l'échange interafricain représente quand même plus de 80% du flux de migrants. Il n'y a qu'une vingtaine de pourcents qui va vers l'Europe.
Oui, bon, évidemment, bon, sur la question de la migration, je crois que il y a cette manipulation, c'est-à-dire que le fait de
ou cette perception, voilà,
c'est-à-dire que cette perception de dire que
maintenant,
oui, mais maintenant, même si on les envahit, parce que moi j'ai une lecture très différente de tout cela, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, la question de l'immigration, elle est culturelle, elle est également historique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Afrique, nous vivons tranquillement, c'est les Blancs qui sont venus nous envahir avec, voilà, c'est-à-dire de la pacotille. Aujourd'hui, ils ont créé tout, c'est-à-dire toutes les conditions ont été créés en Afrique pour nous appauvrir avec des politiques de redressement, etc. etc. Aujourd'hui, nos États africains, c'est-à-dire que compte tenu de la mauvaise gouvernance, compte tenu de tout ce que, tous ces maux sociaux, maintenant, aujourd'hui, l'Afrique est obligée d'envahir aussi l'Europe. Bon, moi, j'ai fait cette lecture-là. Pour moi, c'est très normal que nous, Africains, on essaye d'envahir aussi l'Europe. Parce qu'à un moment donné, c'est eux qui sont venus. Nous vivons tranquillement. Hein, c'est eux qui sont venus nous envahir. Aujourd'hui, ça ne va pas chez nous. On va les envahir également. Ça, c'est l'aspect historique. Maintenant, l'aspect culturel. Quand tu prends, par exemple, la zone de Kaï, où c'est-à-dire que l'immigration le fait...
La zone de Kaï qui se vide
énormément. Oui, le fait d'aller en Europe, c'est culturel. C'est-à-dire qu'il faut aller. Le grand frère est parti, le cousin est parti, je dois aller. C'est comme cela. Maintenant, moi, je pense que le gouvernement européen il ne résout pas en fait le problème, mais il déplace le problème.
D'accord, Boubacar Pentao, merci beaucoup pour ces constats. Youba Konaté, dites-moi, quand on voit quand même que l'aide apportée par ces immigrés illégaux ou pas dans les pays de départ est parfois plus conséquente que l'aide de développement que l'Europe nous donne. Est-ce que justement ça vaut donc le coup d'abandonner un peu l'aide de développement et laisser les migrants faire?
Bon, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des choses à comprendre dans cette question-là. Moi, je ne suis pas sur cette question, je ne suis pas forcément sur la même longueur d'onde qu'Hassan. Parce que je pense que nous chargeons trop les autres. Que l'Europe aujourd'hui, que les Européens pensent aujourd'hui trouver des solutions à l'immigration, moi je pense que c'est tout à fait légitime parce que l'Europe est carrément paniquée. Le phénomène de l'immigration les déborde carrément. Maintenant, nous, à notre niveau, Païtao l'a un peu abordé, c'est d'autres questions qui viennent. Et en tout cas, c'est ce que moi je comprends. L'année dernière, moi j'ai voyagé, je suis allé à Niamey. En car avec un jeune étudiant malien qui avait terminé l'économie, avait fait économie à l'ENA. On a un diplômé de l'ENA. Il partait, j'ai compris qu'il partait dans cette direction-là. On a discuté, à force de discuter dans les cars, il m'a dit très clairement qu'il partait en Libye pour aller en Italie. Donc, à la suite de la discussion, moi, j'ai essayé de le dissuader. J'ai dit, mais pourquoi? Diplômé en économie, tout ça. Il dit, c'est le dernier espoir.
Il n'y a plus. Donc c'est
et à l'époque, c'était le temps.
Il nous reste plus que 3 minutes. Célia d'Almeida, on voit quand même qu'il y a énormément de morts dans la Méditerranée. Il y a d'ailleurs une enquête sur ce chalutier qu'on estime le nombre de morts à 800 morts depuis avril 2015 et on est en train d'essayer justement de passer par des analyses ADN. Est-ce que tout cela ne doit pas un peu décourager les départs très rapidement?
Ça ne décourage pas les départs parce que comme Youba et Païtao l'ont dit, il y a deux aspects. Il y a l'aspect culturel des gens qui sont, c'est dans leur ADN, il faut qu'ils bougent. Ils s'en vont parce qu'ils doivent partir. La famille met la pression, la société met la pression. Mais il y a l'aspect horizon, il y a l'aspect perspective. Et justement, je pense que ce que l'Union européenne veut faire passer comme message, je n'approuve pas cette façon de faire, mais ma compréhension en est que on envoie de l'argent pour développer les pays, mais les pays ne se développent pas. On n'offre aucune perspective aux gens et c'est pour ça qu'ils s'en vont. Puisque vous n'arrivez pas à offrir des perspectives, eh bien, on ne va plus vous donner de l'argent. Puisque ça sert à acheter des 4x4 et envoyer vos enfants étudier au Canada.
Une question très rapidement en une minute. Est-ce que parfois justement cette expertise est correcte? Est-ce que parfois eux n'injectent pas là où ils veulent et là où ça doit être utile?
C'est clair. Et en ce encore, j'épouse la position de Youba. Je pense qu'il faut que nous, Africains, nous nous posions la question. Pourquoi nos enfants s'en vont? Et réfléchir à leur offrir des vraies perspectives de développement. Un jeune qui est bien dans sa vie ne va pas tenter l'aventure culturellement ou ADN-iquement.
Merci, Célia d'Almeida. Un dernier dernier mot très rapidement, Hassan Kone.
Oui, je voulais dire, s'il a dit que la décision, ils veulent dire qu'ils nous envoient l'argent pour nous développer, on ne se développe pas. Donc on ferme le robinet et vous allez
débattre vous-même.
En réalité, ce n'est pas là le problème. Nous, on ne leur demande pas de nous envoyer leur argent. Qu'ils le comprennent. Ils n'ont qu'à simplement revoir les termes du commerce international. On a des produits qu'on leur vend. Et s'ils les paient à leur prix pour qu'on puisse se développer? Voilà la grande question. Le commerce international est déséquilibré, il n'est pas équitable. Vous nous appauvrissez. On ne peut pas développer, on ne peut même pas donner de l'éducation à nos enfants. Et ils ont non, s'il te plaît, il y a un véritable problème. Hein. Il y a un véritable problème.
Merci, merci. Yuba souhaite réagir, Célia souhaite réagir. Mais on est pris par le temps. Ceci met un terme justement à l'émission d'aujourd'hui. Merci Boubacar Paetao de l'Indépendant. Merci Célia d'Almeida du Journal du Mali. Hassan Kone, merci. Yuba Konate du Zénith Balé, merci. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Elle a été mise en onde par Mamadou Wadjar Ouattara. Gagny Kanté était à la régie vidéo. Merci, à lundi pour notre émission.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Moundi.
Chenne Berry. Siki Kafoba.